Ouvrir le Saint-Livre, s'il vous plaît, avec respect. C'est important de venir avec la Bible à l'Église. Oui. Vous avez amené votre Bible? Je l'espère. Et même un crayon pour noter peut-être des versets que le Saint-Esprit va utiliser dans la semaine pour vous rappeler. Dans le Proverbe 25, il y a un enseignement sur la façon dont un homme peut devenir un vase. Vous avez envie d'être un vase? Quelle sorte de vase voulez-vous être? J'ai entendu un vase d'honneur. Il y a toutes sortes de vases dans une maison. Il y a des vases utiles et il y a même des vases inutiles. Il y a des vases en bois, en pierre, en argent et il y en a même... Alors, Proverbe 25, verset 4, dont là on voit un vase en argent. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. J'ai eu un moment d'hésitation parce que je réfléchissais à la température à laquelle l'or fond et à laquelle température l'argent fond. L'argent, il fond, je crois, à 960 degrés, et l'or à 1060. Donc ça vous donne une idée de ce que vous allez comprendre dans la prédication. Dans la Genèse, au chapitre 4, nous avons l'histoire d'un homme qui n'est pas devenu un vase. Il est devenu un vase inutile. Et pourtant, il était dans un contexte super favorable, croyez-moi. Ses parents n'étaient pas des ivrognes. Genèse, chapitre 4, verset 2. Que Dieu nous garde de justifier notre désobéissance par rapport aux gens qui nous entourent. Genèse 4, verset 2. Ève enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché... se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. » Retenez bien ce texte, peut-être on y reviendra tout à l'heure. La troisième lecture, c'est dans l'évangile de Luc, où là nous avons affaire à une toute autre situation et une toute autre réaction. L'évangile de Luc, chapitre 22, verset 31. Un texte qui peut-être a besoin d'être expliqué. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Amen. Nous allons voir le Pierre. Pierre a connu Jésus dans des circonstances particulières. Vous savez, le Seigneur, on peut le lire, je crois que c'est dans Luc 5. Oui, on va le lire. Regardez, c'est bien quand même. Vous connaissez cette histoire, on va pas tout... Je vais vous parler de quelques expériences que ce pêcheur de poissons a faites. Ils avaient travaillé toute la nuit. Toute la nuit, bien sûr, ils n'avaient rien pris. Et Jésus arriva. Par hasard, Jésus arriva, il y avait plein de barques, et en particulier une qui appartenait à ce jeune pêcheur. Luc 5, verset 3, il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, voyez cette parole, parler à la foule, c'est une chose, parler à un individu en particulier, c'en est une autre. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bon, il faut une grosse pêche. Verset 8, quand il vit cela, regardez la réaction de Pierre. Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Première expérience de Simon. Il est là, il a travaillé, il est fatigué. Jésus vient et comme par hasard, il propose sa barque pour s'éloigner afin que sa voix puisse faire réverbération sur l'eau. Et puis après, il lui parle à lui. Et quand Pierre, au contact d'une parole de Jésus, à la place de se réjouir de ce qu'ils avaient fait une bonne pêche, il tombe à genoux et il dit, « Retire-toi de moi, je suis un homme pêcheur. » C'est là que nous voyons la différence entre les comportements des gens lorsqu'ils sont confrontés à la révélation de Jésus-Christ. Pierre va donc faire une expérience, écoutez bien mes frères et sœurs, il va faire une expérience, il va réaliser que cet enseignant avec qui il a affaire est en fin de compte le Seigneur. Il est touché, il est interpellé, il tombe à genoux et il se rend compte que c'est un pécheur. C'est une expérience. Une expérience qui n'est pas qu'une expérience, une expérience qui se transforme en conviction, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font des expériences, mais ils succombent dès qu'une tentation se présente. Et je crois, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu, qui nous amène à faire des expériences, doit quand même se transformer en conviction. Et ces convictions, parce que chacun doit avoir en son esprit des convictions, si vous n'avez pas de convictions, ça m'étonnerait que vous alliez très loin avec le Seigneur. La deuxième expérience, c'est dans Matthieu au chapitre 16, Pierre va la faire, ne la cherchez pas, Jésus fait un sondage, il dit « qu'est-ce que les gens pensent de moi ?» Alors les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les gens disent que tu es tel prophète, les gens disent que tu es Élie, et puis le Seigneur précise par une autre question, « et vous ?» Qui dites-vous que je suis ? Et là, Simon prend la parole et il va dire, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bien sûr, ça a dû jeter une espèce de grand froid, de bon froid. Et Jésus lui dit, mais ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, on n'est plus dans l'expérience, on n'est plus dans la conviction, là, on est dans la révélation. Il a une révélation. Pourquoi il a eu une révélation ? Eh bien parce que c'est un homme qui, malgré son caractère, qui va devoir changer, chercher la communion avec Dieu. Et mes frères et sœurs, vous devriez peut-être répondre simplement à ma première question. Où en êtes-vous de votre cursus spirituel ? Est-ce que vous êtes obsédé par les expériences ? Parce qu'il y a des gens, ils veulent faire des expériences, mais s'il n'y a que ça, ce sont des futurs rétrogrades. À moins qu'ils changent. Après, il y a ceux qui sont, bien sûr, amenés à des convictions. Ils lisent la parole et la parole de Dieu les touche. Et voilà, ils ont des convictions. C'est extraordinaire. Bon, je ne vais pas aborder là-dessus. Mais puis après, il y a des révélations. Les révélations, c'est quand même une bénédiction. Paul a été cet homme de Dieu parce qu'au-delà des expériences et au-delà des convictions, et croyez-moi, il en avait, c'était un homme qui a appris beaucoup avec ses collègues, c'est sûr, il le dit, mais c'est un homme qui a beaucoup appris par révélation. C'est certain. Bon. La troisième fois, c'est lorsque Jésus parle de la nourriture. Vous savez, la nourriture dans l'Église, c'est un grand problème. Un grand problème. La nourriture spirituelle, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ? Parce que la nourriture nous parle de croissance. Et beaucoup de chrétiens ne grandissent pas. Jésus a souvent comparé d'ailleurs la croissance spirituelle avec la croissance physique, parce que pour nous, c'est archi simple de comprendre. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 mois qui ne marche pas, bon, est-ce que c'est normal ? Mais oui. Un enfant de 12 ans qui marche à quatre pattes, Est-ce que c'est normal? Non, voyez. Et nous, vous allez me dire, eh oui, il y a des chrétiens qui ont 12 ans de marche avec Dieu, ils marchent à quatre pattes. Ça n'a pas marché. Et là, dans ce contexte-là, où Jésus parle de la nourriture, ils ne comprennent pas, il y en a la moitié, il y a plein de disciples qui le quittent, pour vous dire. Et vous, vous ne voulez pas vous en aller? Jésus venait en plus de dire, mes paroles sont esprit et vie, donc... Pour les gens qui ont une communion avec Dieu, ils savent très bien ce que ça voulait dire. Et lui dit, mais non, à quel autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous voyez, quand on regarde le parcours de Pierre, il y a ses expériences, ses convictions, ses révélations qui s'approfondissent et qui font quand même que, bon, on voit bien que Pierre se prépare à quelque chose et que Dieu a quelque chose pour lui. Mais, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, ce qu'on a lu dans l'évangile de Luc, nous prouve que malgré les révélations, malgré les expériences et malgré les convictions, il faut une transformation. Ce n'est pas parce qu'on a fait des expériences, ce n'est pas parce qu'on a des convictions et même qu'on a des révélations que notre caractère change. Voilà la base de ma prédication. Béni soit Dieu pour tout ce que je viens de vous dire, mais Dieu voulait que Pierre devienne un certain serviteur. Et là, ça nous concerne maintenant. De la même manière que Dieu veut que vous deveniez un serviteur ou une servante selon ses œuvres qu'il a préparées, est-ce que ça vous préoccupe, au fait? Répondez-vous à vous-même, ne répondez pas à haute voix, c'est pas utile, c'est trop solennel. Sérieusement, répondez, s'il vous plaît, au Seigneur, dans votre cœur. Est-ce que vous êtes intéressé par des expériences qui sont peut-être utiles? Est-ce que vous êtes intéressé par la révélation qui est extraordinaire, parce que ça vous permet de connaître Dieu et quand même, bon. Ou est-ce que vous êtes surtout intéressé par le plan de Dieu pour vous? L'autre fois, j'ai terminé le culte en parlant de Joseph qui était à 17 ans, attaché par des cordes, par un chameau, vendu comme un esclave. Enfin, je veux dire, c'était ça. Le plan de Dieu, là, il faut quand même un certain discernement pour le discerner quand on ne connaît pas la fin de l'histoire. Est-ce qu'il y avait un plan derrière? Quel plan? Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, mais est-ce que vous acceptez le fait qu'une fois sauvé, je parle aux chrétiens, vous êtes devenu membre du corps de Christ? Et qu'en étant membre du corps de Christ, Dieu a un plan pour l'Église. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous êtes capable de couper le disjoncteur et de vous extraire du plan de Dieu, ce qui n'est pas bon du tout? Est-ce que vous savez qu'on a la liberté d'ouvrir ou pas la porte? De la même manière, Pierre avait besoin d'être transformé dans son caractère parce que Jésus savait très bien ce qu'il allait devenir. Est-ce que, je répète, j'insiste, parce qu'il est dit, prenez garde à la manière dont vous bâtissez. C'est pour ça que j'insiste. Est-ce que vous, sérieusement, répondez au Seigneur. Vous êtes soucieux de faire la volonté de Dieu par rapport au fait que vous êtes membre du corps de Christ? Vous devriez lui répondre. Hein. On voit Simon, cet homme qui a déjà beaucoup cheminé, c'est presque à la fin de ces 3 années qu'il a passé avec Jésus, c'est quand même une bonne école. Mais on voit un homme, voilà, je ne répète pas ce que je viens de dire, on voit un homme qui a un fort caractère. C'est bien d'avoir des forts caractères, d'avoir une forte volonté, mais, comme le disait le don spirituel tout à l'heure, ce n'est pas avec notre caractère et notre personnalité que l'œuvre de Dieu va se faire. On voit un homme qui a confiance en lui-même, il a une forte volonté. Quand on lit dans l'évangile de Marc, on peut le lire dans Marc quand même, c'est bien aussi. C'est bien quand même. Prenons le temps. Dans Marc au chapitre 14, cette histoire nous est relatée également au verset 26. Vous voyez, il y avait un bon moment, il venait de chanter des cantiques. Je ne sais pas si c'était les cantiques que l'on a chantées ce matin, mais enfin, il venait de chanter des cantiques. Vous auriez aimé savoir lesquels c'est, hein? Ben moi aussi. Regardez Marc chapitre 14, verset 26, il y avait un bon... Certainement, il y avait vraiment quelque chose de particulier dans ce moment où le Seigneur Jésus chantait avec les apôtres. Après avoir chanté les cantiques, verset 26, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Oui, il aurait mieux fait de se taire. Mais enfin, nos paroles en disent long sur notre caractère. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, à un moment donné, eh bien, on révèle son caractère. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit, même avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et là, il a besoin de se justifier. Mais Pierre reprit plus fortement, plus fortement, ça veut dire que moi je dois hausser le ton, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Bon. Il y avait dans le cœur de Pierre, malgré ses convictions, ses expériences et ses révélations, il avait besoin d'être transformé. Vous commencez à comprendre où je vais venir ? Nous aussi, malgré les expériences, les convictions et les révélations, nous avons besoin d'être transformés. Parce que si nous n'acceptons pas, écoutez-moi mes frères et sœurs, il ne faut pas perdre du temps. Nous sommes dans des temps difficiles. L'apostasie est entrée dans le corps de Christ. Quand je parle du corps de Christ, c'est l'Église de Jésus-Christ dans tout le corps de Christ. Sur la terre, on dit qu'il y a 2,3 milliards de chrétiens, entre les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Les chrétiens sont divisés dans trois dénominations. Mais je ne suis pas du tout sûr que parmi ces 2,3 milliards, il n'y a vraiment que des disciples, vous voyez. Donc, Dieu cherche des disciples. Faites des disciples. Et nous, nous avons baptisé des gens qui ne sont jamais devenus des disciples. Et ça a accéléré l'apostasie dans les églises. Et j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous. Mais c'est déjà arrivé qu'il y en ait. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau, on va le voir. Donc, Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur. Nous, on ne le sait peut-être pas. Pierre, la façon dont il a repris, en plus, plus fortement, devant Jésus, en plus, et devant les autres, il ne se connaissait pas. Ne nous imaginons pas que nous nous connaissons si bien que ça. Vous croyez vous connaître bien ? Non. Alors bon, c'est pas un péché. Mais il y a certains traits de caractère, s'ils ne sont pas éliminés, ils vont finir par nous détruire. J'avais lu dans un bouquin un jour un pasteur qui disait « Ce que tu ne vas pas perdre, ça finira par te perdre ». Et j'avais trouvé ça bien. Il y en a un, qu'on va en reparler tout à l'heure, qui avait l'amour de l'argent, il n'a pas voulu régler ce problème, et bien ça a fini par le perdre. Il y a des choses, le Seigneur il le sait. C'est pour ça qu'il faut peut-être s'apaiser devant une épreuve que le Seigneur est en train de permettre. Donc Jésus, dans son amour infini, dans son intelligence totale, va dire « Simon, alors il parle à Simon, en même temps, il parle à tout le monde, mais là, parce qu'il sait que c'est Simon qui a surtout besoin de qui est surtout concerné par ce problème. Il dit, Simon, sinon Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Alors ça, c'est une parole qui nous fait tous réfléchir, qui suscite bien sûr plusieurs enseignements. Mais il y a dans le cœur de Pierre une suffisance. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu'il faut l'appeler ? Comment vous l'appelleriez-vous ? De la suffisance ? De la confiance en soi ? De l'orgueil, oui, c'est délicat quand même. Je pense, je suis très soucieux de ça quand même, parce que je sais que Dieu n'utilise pas les orgueilleux. Mais il peut y avoir des pointes d'orgueil dans le cœur de l'homme. De la même manière que Paul a failli se faire piéger par l'orgueil, et que le Seigneur, il est intervenu comme il fallait pour que ça ne se passe pas. Donc on peut se poser quand même là la question, oui, il y avait certainement un peu d'orgueil dans le cœur de Pierre, donc... le Seigneur va vous cribler, va te cribler. Alors, j'en ai déjà parlé une fois, mais le mot cribler, c'est un mot qui signifie passer au tamis. Vous savez ce que c'est quand on crible ? Bon, il n'y a pas beaucoup de paysans au milieu de nous. Même fin, quand on était petits, nous, je me rappelle, on criblait le blé pour faire tomber tout ce qui n'allait pas, etc. Cribler, ça veut dire... Alors, c'est une image spirituelle, bien sûr. Alors, l'image spirituelle, écoutez bien. Mettre à l'épreuve sa foi par une agitation intérieure jusqu'au point de chute. Définition du dictionnaire biblique. Mettre, écoutez bien, cribler, c'est Jésus qui parle. Il parle de nos épreuves. par rapport à notre caractère qui a besoin d'être changé malgré les révélations, mettre à l'épreuve la foi d'un homme par une agitation intérieure jusqu'au point de chute. Ça parle de ces combats intérieurs. Vous savez ce que c'est, des combats intérieurs? C'est pénible comme tout. Oui ou non? Il y en a, ils sont supportables, il y en a qui sont difficiles. Oui ou non? On le sait, ça. Jésus n'a pas empêché cette épreuve. Jésus aurait pu dire, écoute, Satan t'a réclamé, mais moi, je vais prier pour que cette épreuve ne t'arrive pas. Mais là, il y a quelque chose d'un peu plus pointu dans l'explication, c'est que quand même, Jésus dit, Satan vous a réclamé. Alors pourquoi cette affaire s'est-elle passée? Eh bien, je voulais vous l'expliquer avec l'histoire de Caïn. Quand il a commencé à s'irriter, il a été jaloux, et mon frère, voilà, on accepte son ministère, et moi on me met de côté, et gna gna gna. L'irritation provoquée par la jalousie, c'est un problème, ça. C'est le premier problème que Paul règle dans l'église de Corinthe, c'est un problème de rivalité. Il y en a qui étaient pour le pasteur, l'autre pour l'autre, etc. C'est charnel, mais il faut le régler. Il faut le régler, sinon on ne va pas devenir les hommes et les femmes que Dieu voudrait. Donc Jésus n'a pas empêché cette épreuve. Cette épreuve, le diable voulait la provoquer parce que Simon avait ouvert la porte. C'est pour ça que je pense qu'il y avait un peu d'orgueil dans le cœur de Pierre, même si ce n'était pas un orgueilleux, parce que Dieu n'utilise pas les orgueilleux, Dieu le résiste, ça c'est sûr. Mais il y avait un embryon d'orgueil, un soupçon d'orgueil. Donc le diable, il veut détruire, c'est écrit, le diable, il ne vient que pour détruire. Jésus, lui, il utilise les épreuves. C'est pour ça qu'il dit, mais moi j'ai prié pour toi, je vais prier pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, eh bien, affermis tes frères. Quand notre foi est éprouvée, jusqu'à un point de chute, écoutez bien, parce que les rétrogrades, ça s'explique. Ils n'ont pas veillé à ça. Pour eux, l'expérience, c'est ce qu'il faut. L'expérience. Les convictions et encore, et les révélations, n'en parlons pas. Nous on prie, et c'est enseigné. Jésus a dit, quand vous priez, dites « délivre-nous du malin ». Oui ou non? Est-ce que Jésus a dit, quand vous priez, dites « délivre-nous du mal »,« délivre-nous du malin », etc. Oui ou non? Bon, il faut le faire, c'est pas interdit, au contraire. Seigneur, je m'en vais, moi je n'aime pas sortir de la maison sans avoir prié. Je ne veux pas sortir de ma maison sans prier. Je demande au Seigneur, c'est-à-dire « garde-moi ». Et je le fais, c'est un acte de foi. Mais nous on est là, Seigneur. On va mettre un peu plus clair. Épargne-moi les épreuves. Non, il n'y a que moi qui fais ce genre de prière. Épargne-moi les épreuves, Seigneur, tu vois, protège-moi. Tu vois, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Mais je suis presque à la limite de la perfection, moi, je n'ai pas besoin de preuves. Jésus lui dit qu'il priera pour que sa foi ne défaille pas. Donc Jésus, le diable voulait le détruire, il avait ouvert la porte comme Caïn avait ouvert la porte, par l'irritation et la jalousie. De la même manière, c'est écrit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Donc tout ça, ça se conjugue très bien. Lorsque l'irritation, la jalousie, le manque de pardon, et on pourrait faire une longue liste de choses que le Seigneur va provoquer pour nous délivrer de ça. Mais on va s'occuper que de celle-là. Dieu sait que ça nous empêchera. Regardez, Caïn, il s'est mis en vrac toute sa vie, le fils d'Adam et Ève. Je veux dire, il n'y avait pas de contexte plus facile. Il s'est mis en vrac. Il a même tué son frère. Mes frères et sœurs, nous devons absolument veiller sur des traits de caractère. Mais on dit, mais tout le monde fait pareil. Dans l'église, ce n'est pas grave. Enfin, pas ici quand même. C'est rare, rare. Mais ça peut arriver que des gens justifient. Moi, j'ai vu des gens, ah, mais lui, il fume, alors mais moi, je peux fumer aussi. Enfin, je pense que le modèle, ce n'est pas le frère qui fume, c'est plutôt le Seigneur Jésus, qui, je pense, lui, ne fume pas. Donc, le diable veut utiliser des épreuves, parce que nous ouvrons certaines épreuves, alors c'est très délicat ce que je dis, certaines épreuves, elles viennent vraiment à cause de notre péché. Quand Jésus dit à cet homme qu'il a guéri, qui était malade que depuis 38 ans, paralysé depuis 38 ans, il le retrouve dans le temple quelques jours après, et vous savez ce que Jésus lui dit ? Ne pêche pas, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc on voyait très bien, ça c'est clair, que la maladie, là, attention, était liée au péché. Lorsque les amis de Job sont jetés dans la fournaise ardente, c'est une épreuve un peu difficile, c'est pas lié au péché, au contraire, c'est une épreuve qui était liée à l'obéissance. Daniel, j'ai dit les amis de Daniel. Donc je reviens à mon caractère, Dieu sait, mais écoutez bien frères et sœurs, peut-être les jeunes, surtout les jeunes, est-ce que vous réfléchissez au caractère que Dieu veut que vous ayez? Ou est-ce que vous dites, moi je suis comme ça, on me prend comme je suis. Si vous en êtes là, repentez-vous, convertissez-vous. Parce que ce n'est pas possible qu'un disciple du Seigneur parle de cette façon. Qu'est-ce que vous diriez si moi, en tant que pasteur de l'Assemblée, je vous disais, écoutez, vous me prenez comme je suis. En plus, c'est moi le pasteur, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez? Franchement, vous diriez, cet homme, il a perdu la grâce. Oui ou non? Et si vous parlez comme ça, moi, on ne me changera pas. Et puis, de toute façon, maintenant, mon âge que j'ai, c'est pas à moi de changer. Si les ailes... Écoutez-moi, je vous le dis, repentez-vous. Et convertissez-vous, ce n'est pas possible. Un disciple du Seigneur, il éprouve le besoin de changer. Si vous êtes tout le temps enclavé dans votre irritation, dans votre jalousie, ça ne va pas s'arranger. Repentez-vous, demandez pardon aux gens que vous avez irrités. Demandez pardon. Quand on a l'Esprit du Seigneur, c'est possible de demander pardon. Mais tu ne peux pas, moi je ne peux pas, c'est pas possible. Si tu savais, écoutez-moi, vous pouvez pardonner. Oui ou non? Si Dieu dit pardonner, pardonner les offenses, aimer vos ennemis, c'est que vous pouvez le faire. C'est la preuve que vous ne connaissez pas Dieu. C'est la preuve que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous dites je ne peux pas pardonner, moi je vous le dis, vous ne connaissez pas Dieu. Parce que quand on ne s'examine pas, comme ce matin notre frère Jonathan le rappelait dans la Sainte Cène, quand vous lisez les textes qui suivent, le danger qu'un homme court lorsqu'il ne s'examine pas, à la Sainte Cène ou toute la journée de toute façon, eh bien il prend le risque de s'entendre dire ce que Jésus a dit à l'église de Corinthe, je le dis à votre honte, il y a quelques-uns au milieu de vous qui ne connaissent pas Dieu. C'est comme ça que ça marche. Et moi, je vous le dis, mes frères et sœurs, parce qu'il faut que les prédications, ça soit archi-pratique. Si vous dites, ah, mais c'est comme ça, on me prend comme je suis. Mais ne riez pas, parce que je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt à rencontrer le Seigneur. Vous n'êtes pas prêt à rencontrer le Seigneur. Humiliez-vous, repentez-vous, convertissez-vous. Je vous le dis, écoutez-moi, c'est la parole. Dieu sait ce qu'il peut faire avec vous, vous ne le savez pas. Vous savez, moi, je me rappelle des fois quand je me rappelle quand je travaillais en boîte de nuit, que je préparais mes cocktails. On m'aurait dit un jour, tu seras pasteur. J'aurais dit, gars, mais t'as bu un peu plus que moi. C'est sûr que j'aurais dit ça. Dieu sait. Satan sait certaines choses. Enfin, tout le temps, même si ce n'est pas tout, s'il peut détruire quelqu'un, il le fera. Il n'a pas besoin de tout savoir. Mais Dieu sait, mes frères et sœurs, Dieu sait que le criblage... Les secousses ont un but précis. Certaines choses ont besoin d'être ébranlées. Il faut que nous l'acceptions, mes frères et sœurs. Je ne sais pas quel trait de caractère, mais si vous avez un caractère difficile, acceptez que le Seigneur vous ébranle. Ne dites pas, j'en ai marre de cette épreuve, j'en ai marre, le Seigneur, il fait rien pour moi. Ah oui? Si vous parlez comme ça, c'est pareil. C'est que vous ne le connaissez pas. Vous avez fait des expériences, oui, mais vous pouvez avoir fait 50 expériences et ne pas connaître le Seigneur. Et ça, hélas, je le sais par de tristes situations. Il y a des choses qui sont charnelles. L'irritation, la jalousie, cet énervement systématique. C'est des craquements, ça. Je me souviens quand je suis arrivé ici, il y avait quelqu'un qui faisait le ménage. Et écoutez bien, c'est une belle image. Quelqu'un qui faisait le ménage qui nous a dit, en faisant le ménage, j'ai entendu un craquement là dans les combles. Bon, j'ai dit, craquement dans les combles, la poutre est en moi. Et monsieur de Dieu, je me rappelle, il a dit, il va falloir quand même regarder. Et ils sont montés, vous vous rappelez, avec monsieur Gabara, ils ont mis une échelle, ils ont ouvert par là. Et ils se sont rendus compte qu'une ferme était descendue de plusieurs centimètres. Vous voyez, il y a des petits craquements, c'est le bois qui travaille. Vous voyez, moi qui suis super technicien dans les charpentes, J'ai dit, non, c'est pas grave. Et même si de Dieu, il a dit, non, 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 on va regarder. Et ils ont levé, vous vous rappelez, hein. Et là, une ferme s'était déplacée de combien, 5 ou 6 centimètres, hein. 7 centimètres. Il y a des craquements, c'est pas grave, c'est normal. Mais il y en a d'autres, il vaudrait mieux peut-être regarder. Et si l'irritation est toujours là, si la jalousie est là, si cette colère est là, alors bien sûr que vous allez, je vous connais, certains, mais c'est une sainte colère, mais si vous ne vous pigez pas, ne, soyons sérieux. Parce que Pierre, il ne savait pas, Pierre d'ailleurs, pourquoi il s'est opposé, pourquoi j'ai lu le texte de Marc, parce qu'il s'est opposé au Seigneur, parce qu'il était sûr de lui, je suis prêt à aller à la mort et en prison, sache-le, c'est comme ça. Il ne savait pas ce qu'il disait, il ne savait pas. Et nous, c'est pareil, on ne sait pas. Et il avait besoin de cette épreuve. Le Seigneur l'a dit. Vous croyez que c'est comme tous les gens qui contestent avec Dieu. « Mais Seigneur, pourquoi tu as fait l'enfer ?» Non mais, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Que vous ne compreniez pas certaines choses, je veux bien. Mais que vous posiez ce genre de questions à Dieu, ça tient un peu du ridicule. Dieu sait ce qu'il fait, frères et sœurs. Et quand Jésus dit à Pierre, « Tu seras criblé », il aurait dû dire, oh, « Mais j'ai encore besoin de cette épreuve. » Vous acceptez que le Seigneur puisse nous dire, mon fils, ma fille, tu as encore besoin de telle et telle épreuve. Et vous savez, mieux on accepte, mieux ça se passe. Pierre n'était pas un peu heureux. On pourrait dire, tiens, vous savez, juste après, le Seigneur va être dans le jardin de Gethsémané, ils vont arriver, Judas va arriver pour le vendre, etc. Et puis le souverain sacrificateur, il arrive, et puis il y a un serviteur, il a un garde du corps. Et lorsqu'ils essaient d'arrêter Jésus, Pierre, il prend son épée, et clac, il essaie d'arranger le serviteur, et il lui coupe une oreille. On pourrait dire, ah, mais... Pierre, même les copains, ils ont dû dire, ah ben, tiens, peut-être que Jésus s'est trompé. Et c'est pas un peu heureux, Pierre, c'est pas un peu heureux quand même pour attaquer un soldat, oui ou non? Il faut avoir du courage, bien sûr. Il était fort, c'est ce que disait le don spirituel, il était fort, mais sa force était une force qui résidait dans sa personnalité, dans son caractère. L'épreuve n'avait pas encore commencé. L'épreuve, elle a commencé comme Jésus l'avait dit. Quand Jésus l'avait dit, devant une simple servante. Voyez, un soldat, vous préféreriez vous battre contre qui, les hommes? Contre un soldat, armé, costaud, une épée, etc. Ou une simple servante? Allez, dites-moi la vérité. Contre qui vous préféreriez vous battre? Eh bien, contre une femme, c'est clair. Les hommes, ils sont forts pour ça. Devant une simple servante, il a eu peur. Il a eu peur. Et il a renié le Seigneur devant une simple femme qui lui a dit, mais attends, ta façon de parler là, attends, comment tu parles? Mais ta façon de parler fait que tu es un disciple, tu es un de ces amis de Jésus. Non. Alors pourquoi je parlais de ce soldat qui s'est attaqué et devant une simple femme, il a eu peur? Mais parce qu'on ne sait pas forcément les choses qui nous feront chuter. C'est pour ça, ne dites pas au moins ça, là, t'inquiète pas. Moi, je tomberai jamais. Tu peux y aller, moi, ça risque pas. Mes frères et sœurs, nous ne savons pas quelles sont les choses qui peuvent nous faire tomber. C'est pour ça qu'il vaut mieux être veillé et prier en tout temps. Croyez-moi. En plus, il va renier Jésus deux fois, et bien sûr, il est parti en pleurant. Alléluia. C'est bien de pleurer des fois? Oui, il est parti. Alors, si on voulait comparer Pierre et Judas, ça serait bien pendant quelques instants, parce que quand même, ça tient debout. Les deux ont rejeté Jésus. Vous êtes d'accord? Les deux ont rejeté Jésus. Judas, il a aimé Jésus, puisqu'il a tout quitté pour partir avec le Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une consécration là-dedans? Il a tout quitté pour servir le Seigneur. Quand Jésus a été persécuté, on n'a pas le temps de le lire, mais quand Jésus a été persécuté, Judas a pris position et il est resté avec lui. Il a chassé les démons, il a guéri les malades, il a prêché l'évangile, tout ça, j'ai les références si ça vous intéresse. Et les deux hommes ont regretté ce qu'ils ont fait, oui ou non? Mais comment cela se fait-il que l'un a été restauré et que l'autre s'est suicidé? C'est un gros problème, ça, parce que quand on les compare au départ, ils sont pareils. Ils ont passé le même temps, laps de temps avec Jésus, etc., etc. mais ils n'avaient pas le même fondement. Ils ont fait les mêmes expériences, mais ils n'ont pas le même fondement. Enfin, un pasteur qui se suicide, vous avouerez que ça fait quand même... Ben, en pensant à cette prédication, je pensais à ce fameux conseiller de David. Vous avez peut-être lu les rois, Et il y a un conseiller, quand il y a eu le schisme avec Salomon, tout ça, et Absalom, quand il y a eu le schisme, il a cru bon de prendre position, etc. Et cet homme, il est dit que quand il parlait, quand il donnait des conseils, c'était comme si c'était Dieu lui-même qui donnait les conseils. Et quand il a vu le vent tourner, et que ça s'est retourné, plutôt que d'aller demander pardon à David, est-ce qu'il aurait pu aller demander pardon à David? Ben oui, il aurait, je suis sûr que David l'aurait pardonné. Quand on voit comment David s'est comporté avec Shimei quelques temps après, je peux vous dire que David l'aurait pardonné, mais il ne connaissait pas David. Et il s'est suicidé. Il a mis le feu dans sa maison et il est mort dans cet incendie. Il s'est suicidé. On voit des suicides dans la Bible. Dans la Bible, il y en a plusieurs, croyez-moi. On n'y réfléchit pas toujours, mais ça vaut quand même la peine de voir pourquoi ces hommes se sont suicidés. Je peux vous dire, à vous qui m'écoutez, que quand on se suicide, on n'est pas entre les mains de Dieu. Et qu'on ne peut pas penser à une bénédiction qui suit quelqu'un qui s'est suicidé. Mais ça peut être une tentation. Ça peut être une tentation, le suicide ? Oui. Il faut que ça reste une tentation. Donc, mes frères et sœurs, Pourquoi nous n'acceptons pas ces épreuves? Alors, c'est bien écrit on est dans Luc. Vous êtes dans Luc? Regardez, dans Luc au chapitre 8, c'est très bien expliqué. Mes frères et sœurs, je ne sais pas où vous en êtes au niveau du caractère. Je sais que certains sont friands de révélations. C'est bien. Mais j'espère que vous êtes beaucoup plus soucieux de votre caractère. Luc 8, au verset 13, il y a un gros paradoxe dans ce qui se passe là-dedans. Luc 8, verset 13, c'est la parabole du semeur et des terrains. Ça nous parle du cœur, donc ceux qui sont sur le roc. Alors, regardez bien, vous y êtes, Luc 8, 13. Ce sont ceux qui entendent la parole, alors ils la reçoivent avec joie. Vous pouvez recevoir cette prédication avec joie, parce que sincèrement, je l'ai préparée, je m'applique, etc. Vous pouvez dire que c'est intéressant, oui, bon, mais ça ne suffira pas, je vous le dis. Mais, voilà le problème, il n'y a pas de racine. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Achipotel, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Judas. Il n'y a pas de racine. Il croit, alors qu'est-ce qui se passe là? Il croit pour un temps. Et il succombe, regardez, en plus j'ai pris ce texte exprès, parce que là on n'est pas dans le méga combat. Il succombe au moment de la tentation. J'ai préféré prendre ce texte que celui de Matthieu, parce que Matthieu parle de tribulation et de persécution. Là, Luc utilise la tentation. Il a dû prononcer les trois mots, c'est évident. Mais franchement, la tentation. Mais c'est vite fait. Combien de jeunes filles ont été tentées de... Parce qu'elle travaillait à la fac, dans la nouvelle entreprise, avec des garçons super beaux, super gentils, super sympas au début. Et ce garçon, il est bien, il est mieux que les jeunes de l'église. Tentation. Ah ouais, je suis prête à me marier avec un converti. De toute façon, moi j'ai la foi. Et puis je le changerai. Si vous avez... un jour que vous êtes capable de changer quelqu'un, changez-vous d'abord vous-même et vous allez voir que c'est pas facile. Et voilà, il succombe au moment de la tentation. Et hélas, la liste des jeunes garçons, des jeunes filles qui se sont fait piéger parce qu'elles sont tombées amoureuses, ils sont tombés amoureux d'une super fille, d'un super garçon qui avait des valeurs et une moralité qu'eux-mêmes, certains chrétiens n'ont pas dans l'église, ce qui en plus parfois est vrai. Mais mes frères et sœurs, vous connaissez le Seigneur? Vous croyez que le Seigneur va faire quelque chose pour vous nuire? Vous croyez que Jésus était en train d'ennuyer Simon par rapport à une épreuve qu'il aurait pu empêcher? Mais c'est clair, il fait ce qu'il veut le Seigneur. S'il veut empêcher qui que ce soit de vous toucher, il empêchera tout le monde de vous toucher. C'est évident. Vous croyez que Dieu qui est bon, on l'a chanté, vous l'avez écouté par ces cantiques de la chorale. Vous croyez que Dieu va faire quelque chose pour vous nuire? C'est que si vous croyez que le Seigneur ne fait rien pour vous, ben vous ne le connaissez pas. Je connais un pasteur, écoutez ce que je vais vous dire, c'est pitoyable vraiment. Un pasteur, un ami, qui a rencontré dernièrement un pasteur qui a arrêté le ministère. Il a arrêté le ministère parce que, je vais vous le dire. Il le croise dans la grande surface. Il était avec la cigarette au bec, sa nouvelle copine à la main. Il avait divorcé, il avait sa nouvelle copine. Il lui dit, mais qu'est-ce que t'es arrivé? Qu'est-ce que t'es devenu? Et il a dit, mais tu sais, moi, Dieu, il n'a rien fait pour moi. Bon, c'est même pas la peine de continuer. Mais quand on en est là, je suppose que c'est un pasteur, je pense. Après, on est libres tous. Judas n'était pas obligé de se suicider. Pierre n'était pas obligé de se repentir. Est-ce que Pierre était obligé de se repentir? Non. Il aurait pu claquer les doigts en disant, ben oui, mais ça, tout ça, il me l'a dit, c'est arrivé, mais enfin bon. Non, il a pleuré. Il avait une révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tes paroles sont esprit et vie. Il avait reçu cette révélation. Il avait des racines. Et les gens qui décrochent, mais écoutez, c'est pas un scoop. Les gens qui décrochent, c'est Jésus qui l'a dit, ils n'ont pas de racines. Et donc, ce que nous devons faire, c'est nous appliquer à avoir des racines. Parce que si vous ne vous enracinez pas, si nous ne nous enracinons pas dans cette communion avec Dieu, quand surviendra la tentation, on n'est pas là dans la persécution ou dans la tribulation, on est dans la tentation. Il y a des gens, ils décrochent à la tentation. Ça devrait nous faire réfléchir quand même. Nous, on regarde les choses, nous, on est là, on a le nez dedans, comme si Joseph... Je ne sais pas ce que Joseph pensait lorsqu'il marchait derrière son chameau pendant des journées, sous le soleil attaché, à cause de ses frères qu'il avait vraiment bien arrangés, avait peut-être des plaies sur les bras et sur le visage. Je ne sais pas s'il pensait au présent proche, ou s'il pensait à ce qui allait arriver dans 430 ans ou plus, au peuple d'Israël. Bon, je vous avoue que peur penser à... Au long terme, il faut quand même avoir une certaine communion avec Dieu. Mais mes frères et sœurs, est-ce que quand même ça ne nous est pas plus facile, à nous qui avons la révélation de la parole, de comprendre que si Dieu est en train de s'occuper d'un problème de caractère dans notre vie, c'est pour le bien de l'Église? Est-ce que c'est important pour vous le bien de l'Église? Est-ce que vous regardez l'aspect des choses comme Ésaïe, c'est écrit dans Ésaïe, mais vous ne regardez pas celui qui a voulu ces choses. Vous regardez les choses. À la place de regarder celui qui a voulu ces choses. Eux, ils voulaient de la joie, ils voulaient de la gaieté. L'ennemi allait les détruire et ils voulaient s'amuser. Et Dieu dit, mais non, regardez. Et puis il parle par Jérémie, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Mais non, ils n'en ont pas tenu compte. Pierre est parti en pleurant. Mais vous savez, des fois, c'est bien de partir en pleurant. Ça vous est arrivé de pleurer sur des péchés, de dire, oh là là, mais là, je me suis vraiment loupé. Plutôt que de dire, ben, c'est ta faute, tu n'avais qu'à pas me parler comme ça. Mes frères et sœurs, que c'est dommage. Vous savez, quand on commence à trouver des excuses, ben quand on cherche des excuses, c'est qu'on n'a pas besoin de la grâce de Dieu. C'est pas compliqué. Je ne sais pas ce que Pierre a pensé. Pierre était quand même un homme intelligent. Il était quand même, bon, c'est quand même l'apôtre Pierre, il ne faut pas exagérer non plus. C'était quelqu'un. Quand il est parti en pleurant, peut-être qu'il a pensé des paroles que Jésus avait dites. Peut-être que l'ennemi l'a agité comme il fallait. Tu ne te rappelles pas ce qu'il a dit? Est-ce que le diable, il connaît la Bible? Tu te souviens pas? T'as fait le beau, là? T'as fait le malin devant les autres? Devant Jésus, en plus? Mais tu te souviens pas que Jésus a dit que celui qui me renierait devant le Père, devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux, mon pauvre m'était grillé. Vous savez, moi, une fois, j'ai entendu la voix de Dieu qui me l'a dit, du diable, par rapport à un truc que j'avais dû faire en pastoral. J'avais dit quelque chose, peut-être pas d'une manière intelligente, pédagogue. Pourtant, en principe, je suis... Eh bien, le diable m'a dit, t'es grillé. Et c'est vrai que pendant 3 ans, j'ai été en difficulté. Mais mes frères et sœurs, Dieu a toujours une parole bénie. Alors on va lire un texte qui est chouette. Dans l'évangile de Marc, juste avant, au chapitre 16, ça c'est le jour de la résurrection. Regardez si c'est beau. Donc c'est après cette affaire de reniement. Judas s'est suicidé. Jésus-Christ est mort. Et il y a 3 femmes, dont 2 qui s'appellent Marie. Il y a 2 Maries, Marie de Magdala et Marie, la maman de Jacques, et Salomé. 3 femmes, donc, qui partent au tombeau pour embaumer Jésus. Elles n'ont pas pu le faire, tant mieux, Jésus est ressuscité. Et un ange va les interpeller et leur dire quelque chose. Regardez bien. Regardez bien la délicatesse du Seigneur. Ça nous prouve bien que Dieu ne veut pas nous nuire. Marc chapitre, qu'est-ce que j'ai dit ? 16. J'ai dit 6 ? 16. Regardez ce que... Alors, verset 6. Donc, l'ange... On a chanté ce matin qu'il y avait les noms des anges. Hein. Il y en a un qui s'appelle Michael. C'est formidable. Marc chapitre 16, verset 6. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Regardez bien. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre. Moi, je trouve ça. Je ne sais pas. Écoutez-moi. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Que Dieu, dans sa sollicitude, sa tendresse, ait dit à l'ange, écoute, tu diras ça. Dis aux apôtres et à Pierre que je les rencontrerai là-bas en Galilée. Moi, je trouve ça merveilleux. Pourquoi ? Parce qu'il a été brisé, Pierre a été brisé, d'ailleurs c'est le titre que j'avais donné à ma prédication, brisé et restauré. Mais je crois que le titre est incomplet, parce que le brisement doit être suivi d'une repentance. Brisé, on devrait dire humilié, repentant et restauré. Parce que s'il n'y a pas la repentance profonde, il n'y a pas de restauration. On reste comme Caïn, on reste à tourner en rond dans le désert toute sa vie. Et Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous tournions en rond toute notre vie, à marcher à quatre pattes comme un gosse de 12 ans qui n'arrive pas à marcher parce qu'il n'a pas réussi à accepter les épreuves que Dieu permettait. David l'a dit, mais il m'est bon d'être humilié. Vous vous rendez compte ? Le roi David. Il m'est bon d'être humilié ce matin quand je priais. Je pensais à David quand il m'a monté sur le mont des Oliviers. Vous savez, quand il y a eu son fils s'est révolté contre lui. Il est dit qu'il montait sur la montagne, les vêtements déchirés, pieds nus, pleurant, la tête couverte. Et que Shimei, vous vous rappelez Shimei, là, il y a des gens qui sont forts, il l'a insulté. Et que Joab, le général, il a dit, écoute, tu ne veux pas que j'aille le raccourcir, il arrêtera de t'insulter. Et il lui a dit, non, laisse-le, si Dieu permet ça. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mes frères et sœurs, le Seigneur ne s'amuse pas avec nos vies. Nous sommes ses enfants. Vous entendez ? Si vous êtes passé par les eaux du baptême, après la repentance, je ne parle pas d'expérience. Moi, ma fille aînée, elle n'a pas fait de grosse expérience. Mais je peux vous dire qu'elle a accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Elle dit, moi, après, elle en a fait après. Mais quand elle a pris le baptême, je me souviens, elle l'avait dit ici à ma place, elle a dit, vous savez, moi, je n'ai pas fait beaucoup d'expériences, mais j'en ai fait une. C'est que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ. Donc les expériences, c'est une chose. La conversion, c'en est une autre. Mais si vous êtes converti, né de nouveau, vous êtes entré dans le corps de Christ par un vrai baptême de renoncement à soi-même. Et c'est ça que Pierre avait besoin d'apprendre. Jésus nous éprouve, Jésus nous brise, Jésus nous amène à la repentance par la croix et Jésus nous restaure. Et vous avez vu comment il a terminé, Pierre ? Qui c'est qui prêche à la Pentecôte ? Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, mais moi je vous conseille de l'accepter. D'accepter l'épreuve et ne vous opposez pas aux paroles du Seigneur. Ne discutez pas avec le Seigneur. Dites-lui merci. Pourquoi tu permets ça ? Pourquoi tu permets ça ? Je comprends. Non, écoutez-moi, mes frères et sœurs, ne perdez pas des années. Ne perdez pas des années. Je ne sais pas l'épreuve que vous traversez, mais vous pouvez la court-circuiter, vous pouvez la prolonger des années. Elle peut s'achever dans quelques jours, parce que Dieu veut faire quelque chose avec vous. J'aimerais que vous le compreniez. Mes frères, mes sœurs, acceptez que Dieu vous crible et humilions-nous sous sa puissante main.